Deuxième épisode de Mon enfant ne veut rien manger sur le blog Secret de Nutritionniste aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de podcast, je reçois à nouveau Aurélia Perrin. Aurélia, je t'avais reçue pour un premier épisode sur les goûts et le répertoire alimentaire de l'enfant, comment il se crée et comment ça se passe sur les différents points. Et aujourd'hui, on fait un deuxième épisode ensemble pour voir, ben voilà, quand on est à table avec des enfants et que ça pose vraiment problème, quand un des enfants ne veut plus rien manger, que le repas vire vraiment au règlement de compte et à un moment difficile, eh ben c'est là qu'il faut peut-être penser finalement à consulter et à consulter une orthophoniste. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Alors, effectivement, quand il y a des problèmes alimentaires, alors le premier interlocuteur, ce sera déjà le pédiatre pour s'assurer qu'il n'y ait pas des causes médicales derrière tout ça. Mais si, en tant que parent, on a un doute et que notre intuition nous dit, même si le pédiatre se veut rassurant en nous disant qu'un enfant ne se laisse jamais mourir de faim ou ce genre de phrase qu'on entend trop souvent, quand en tant que parent on a un doute, ça vaut quand même la peine de demander à une ordonnance à son médecin pour avoir un bilan orthophonique de l'oralité alimentaire, car effectivement les orthophonistes sont connus plus pour l'aspect langagier, mais l'oralité alimentaire fait aussi partie de nos compétences. Et donc, ça permet de faire un petit peu le point, voir justement comment les choses se sont mises en place jusque-là, à partir de quand les choses ont commencé à aller de travers, parce que ce n'est pas toujours depuis le début. Et puis, faire un petit peu la part des choses entre les différentes causes possibles, parce qu'on a le problème d'un repas, ça peut être lié à plein de choses différentes finalement.
Est-ce que tous les orthophonistes font ce bilan d'oralité alimentaire?
Alors normalement, ça fait partie de notre nomenclature, donc on est censé être tous en mesure de le faire. Mais comme notre champ de compétences est assez vaste, en général, les orthophonistes ont des domaines dans lesquels ils sont plus formés que d'autres. Et ça vaut la peine de demander, quand on téléphone à un orthophoniste, si ça fait partie des choses qu'il prend en charge et s'il a été formé spécialement pour le domaine de l'oralité alimentaire. Alors, parmi les différents freins qui peuvent empêcher des repas variés et sereins, on peut avoir des causes qui sont d'origine sensorielle, des causes plus d'origine médicale, d'où l'intérêt d'aller voir d'abord le pédiatre, des problèmes d'origine praxique, c'est-à-dire au niveau moteur, au niveau de l'enchaînement des mouvements, et des causes qui sont plus d'ordre comportemental ou comportemental, on va dire. On rentrera plus dans le détail après. Donc déjà au niveau sensoriel, on peut avoir des problèmes au niveau du réflexe nauséeux qu'on a tous normalement en fond de bouche. Donc quand on va mettre la brosse à dents ou quoi un petit peu trop loin sur l'arrière de langue, on a un haut-le-cœur et il y a l'estomac qui se contracte et voilà. Et selon les enfants, certains enfants peuvent avoir ce réflexe-là qui est trop développé. Et donc, ils peuvent avoir un réflexe nauséeux qui est déclenché dès le premier tiers de la langue. Donc, forcément, si on a un réflexe nauséeux dès le premier tiers de la langue, bah, dès qu'on met des choses en bouche, ça peut être compliqué, quoi. Donc, ça, c'est une première cause à rechercher. Il peut aussi y avoir des problèmes d'hypersensibilité. Donc, on a des sens qui sont développés différemment. On voit avec d'autres personnes que des fois on a des intolérances à certaines odeurs que d'autres n'ont pas, que voilà. Donc on sent les mêmes choses, mais à des degrés différents, à des forces différentes. Et il y a certains enfants qui peuvent être hypersensibles. Donc ça va être à peine salé, ça va leur apparaître très salé, ça va être à peine poivré, ça va leur brûler la bouche, etc. Donc il peut y avoir des façons de ressentir les goûts. Les odeurs aussi, le toucher, la température de façon différente. Donc c'est l'enfant qui, lorsqu'on lui sert un lait chaud par exemple, va dire mais c'est brûlant, je ne peux pas boire ça. Ou alors quand on a une glace, je ne peux pas, ça me brûle aussi dans le sens inverse, c'est beaucoup trop froid, ça m'ag... Et donc ils se sentent agressés par certains goûts, certaines odeurs, voilà, certaines températures. Donc ça peut restreindre aussi les expériences au niveau alimentaire. Et puis à l'inverse, on peut avoir certains enfants qui ont une hyposensibilité, c'est-à-dire que ils percevront les goûts, par exemple, de façon très atténuée. Et donc, on peut avoir moins de plaisir à manger parce qu'on trouve tout fade finalement. Et donc, ils peuvent avoir moins de plaisir aussi au niveau gustatif.
Au niveau technique, Aurélia, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, en tant qu'orthophoniste, comment tu fais pour mettre ce diagnostic, par exemple, comment tu testes pour savoir que le réflexe nauséeux, il est au tiers de la langue, les températures, les goûts. Est-ce que c'est juste un questionnaire par rapport à l'enfant et aux parents, ou est-ce que toi, tu as des moyens techniques pour tester ça?
Alors en général, on prend vraiment le temps de faire une anamnèse, donc un questionnaire assez poussé sur les habitudes de l'enfant, sur comment les choses se passent. Ça nous donne déjà quand même pas mal d'éléments. Au niveau du nauséeux, alors souvent les enfants ont une bouche qui est défensive quand le nauséeux est trop développé, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas accepter qu'on leur touche la bouche, ils ne vont pas accepter qu'on aille leur brosser les dents. Alors souvent, c'est en questionnant les parents quand on brosse les dents ou quoi, est-ce que si vous allez sur la molaire du fond, il a tendance à repousser la brosse à dents ou à pas vouloir qu'on y aille. Et puis on peut le tester, alors simplement, alors moi j'aime pas trop parce que c'est pas des choses qui sont agréables, mais des fois on en a besoin. Sinon, quand on va chez le médecin et que le médecin utilise un abaisse-langue par exemple pour ausculter le fond de la bouche, on s'en rend vite compte aussi, quoi. Donc quand on a des suspicions, on va tester avec l'accord de l'enfant. Alors il y a certains enfants qui n'acceptent pas du tout qu'on mette quoi que ce soit dans leur bouche dans un premier temps, donc en général c'est quand même un signe aussi, quoi. Et puis au niveau de la sensibilité, alors ça va être beaucoup par les questionnaires. Après, par rapport aux odeurs, on peut utiliser simplement un loto des odeurs et on voit les réactions des enfants, hein. Il y a certains enfants où à peine ils portent le nez à quelque chose, tout de suite ils ont pareil des fois des réflexes nauséeux, des haut-le-cœur, où ils repoussent ça, ou des mimiques de dégoût. Voilà, donc on peut le tester par ce biais-là. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est sensoriel. Alors au niveau sensoriel, on peut aussi rajouter, souvent ça peut être des enfants qui n'acceptent pas de marcher pieds nus dans le sable, pieds nus dans l'herbe fraîche. Ça peut aller, c'est-à-dire que la bouche, ça va être la zone finale pour l'alimentation, mais ça peut être des enfants qui ont des hypersensibilités de tout le corps et qui n'acceptent pas, qui n'aiment pas patouiller, faire de la peinture aux doigts, qui ont toujours besoin d'avoir les mains propres, qui n'aiment pas toucher le sable kinétique parce que ça colle aux mains, qui ne peuvent pas patouiller dans la terre, etc. Et des fois, il y a besoin de repartir de loin pour petit à petit remonter et arriver au niveau de la bouche parce qu'il y a besoin de désensibiliser déjà tout le corps, enfin d'apprivoiser les sensations au niveau de tout le corps. Donc c'est aussi souvent des enfants qui n'aiment pas les soins quand on doit leur nettoyer le nez, personne n'aime, mais leur nettoyer le visage ou les soins quand ils étaient bébés sur la table allongée, on voyait qu'il y avait une espèce d'inconfort qui se débattait, qui n'aiment pas trop les contacts physiques. Voilà, il y a beaucoup de signes de cet ordre-là. Alors, d'autres types de freins, on peut aussi avoir des freins au niveau médical. Donc là, effectivement, ça va être plus les pédiatres, les allergologues, etc., qui vont faire le diagnostic. Donc, on a souvent enfin, il peut y avoir, mais ça revient quand même assez souvent, des problèmes d'allergie alimentaire ou en tout cas d'intolérance quand ce n'est pas vraiment purement des allergies. On peut avoir tout ce qui est problème ORL, notamment avec les amygdales en fond de bouche qui sont hypertrophiques, c'est-à-dire qui sont inflammatoires, qui sont grosses et qui empêchent le passage en fait quand les enfants avalent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à vérifier. Après, on peut avoir tous les problèmes aussi plus digestifs de type reflux gastro-œsophagien, régurgitation, l'acidité de l'estomac qui est mal évacué. Et puis, on a tous les problèmes médicaux de type malformation. Donc ça, en général, on le sait parce que ça passe pas inaperçu quand c'est des grosses malformations comme par exemple la trésie de l'œsophage. C'est l'œsophage qui est fermé, qui empêche le passage des aliments. Enfin, voilà, c'est les pathologies qui peuvent amener à une nutrition artificielle. Donc des enfants qui ont d'abord été alimentés sans que ça passe par la bouche, en direct dans l'estomac. Et qui donc n'ont pas développé tout ce qu'il y a à développer par la bouche, justement, et les expériences qu'il y a à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours de voir un pédiatre pour pouvoir évacuer, en tout cas, toutes ces causes-là. Donc, au niveau des autres causes qui peuvent entraîner des problèmes au niveau de l'alimentation, on a toutes les causes praxiques. Donc, ce qu'on appelle praxique, c'est tous les enchaînements de mouvements qui permettent de prendre la nourriture en bouche, de la bouger dans sa bouche, de la mastiquer, de l'avaler. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on peut avoir déjà, quand les enfants sont bébés, toutes les difficultés de succion. Donc, les enfants qui ont du mal à téter, qui avalent de l'air quand ils tètent ou qui ont des problèmes de bavage, où on voit déjà qu'il y a des indices qui nous font voir qu'au niveau de la motricité, il y a des choses qui ne sont pas bien déroulées dans les premiers temps. On peut avoir des enfants qui ont du mal à passer à la cuillère parce que, par exemple, les lèvres ne sont pas assez toniques et qu'ils n'arrivent pas à prendre ce qu'il y a sur la cuillère. Et puis, donc, il y a tous les problèmes d'hypotonie, donc tous les muscles du visage qui sont un peu trop mous, pas assez musclés, au niveau de la bouche, des joues, de la langue. Parce qu'il n'y a pas que, enfin, il y a beaucoup de structures qui entrent en jeu. Et donc ça, on le repère aussi avec des enfants bah, souvent qui ont un bavage ou qui restent souvent la bouche un petit peu entrouverte ou qui ont une respiration buccale avec la langue en bas, ce genre de choses. Et puis après, donc tout ce qui est difficulté de mastication. Donc il y a différents stades. Donc il y a un stade plus de malaxage où l'enfant va écraser la nourriture avec sa langue au palais. Et puis petit à petit, ça va se complexifier au niveau du mouvement. Donc, alors au départ, il y a vraiment un mouvement de la langue d'avant en arrière, donc quand on est au moment de la succion. Ensuite, il y a un mouvement de la langue de bas en haut quand il écrase au palais. Et puis ensuite, le mouvement va encore se complexifier où la langue va pouvoir aller dans toutes les directions pour amener les aliments sous les dents. Et le mouvement des mâchoires va aller de bas en haut, mais aussi sur les côtés pour faire comme une meule à grains finalement qui va broyer dans toutes les directions. Et certaines fois, le mouvement n'est pas suffisamment développé et ne permet pas de manger les aliments solides. Et il peut y avoir aussi des difficultés au niveau de l'enchaînement des mouvements pour la déglutition. Même si c'est bien broyé, qu'on a le bol alimentaire qui est bien malaxé dans la bouche, après, il y a besoin d'avoir le bon mouvement pour avaler et pour éviter que tout ressorte quand on avale. Donc ça, on le voit des fois avec les bébés quand ils ont les premières purées et qu'il y en a autant qui part dans le ventre que qui revient dehors, en dehors de la bouche. Et donc, alors là, ça peut être aussi pour les petits, on le voit plus chez les personnes âgées, mais ça arrive aussi chez les enfants. Quand il y a des difficultés de coordination au niveau de la déglutition, il peut y avoir des problèmes de fausse route. Et un enfant qui a déjà fait quelques fausses routes, ça peut être traumatique et par peur de la fausse route, il peut refuser de s'alimenter, par exemple.
Je voulais juste dire que le troisième épisode de Postcat, ce sera les outils hein, pour résoudre tous les problèmes qu'on est en train de lister dans celui-là d'épisode. Il nous reste toute la partie comportementale dans les freins qui peuvent intervenir, et ce n'est pas des moindres, j'imagine.
Alors là, effectivement, on a séparé les choses de façon un peu arbitraire parce que quand il y a un problème alimentaire, il peut y avoir et des causes sensorielles qui viennent s'ajouter avec quelques causes praxiques et éventuellement des causes comportementales où ça peut être que d'une seule. Enfin, il peut y avoir qu'une seule origine, mais c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Ça peut être un amalgame de plusieurs choses. Donc au niveau comportemental, on arrive sur des choses qui sont un peu plus liées, on va dire, à la psychologie. Pas que, mais il y a un peu de ça quand même. Parce que l'alimentation, c'est quelque chose qui est super important dans le lien parent-enfant. Et quand on a un tout petit bébé qui n'est pas capable de s'alimenter tout seul, c'est notre rôle de parent de le nourrir et ça conditionne sa vie quand même, hein. Donc c'est quand même pas rien au niveau de l'implication. Donc il y a beaucoup de liens parents-enfants qui se jouent aussi à travers l'alimentation. Voilà, donc au niveau de. Il peut y avoir beaucoup d'enjeux d'opposition, de prise de pouvoir, de désir de contrôle, même de la part de l'enfant, c'est-à-dire que les enfants se rendent compte aussi qu'ils ont un pouvoir, parce qu'ils ont le pouvoir de dire oui ou non. Et quand ils voient que papa ou maman est super anxieux et qu'il est très affolé quand on dit non, il peut sentir aussi qu'il tient quelque chose là et ça, il peut y avoir d'autres choses qui se jouent. Alors, ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un problème alimentaire, c'est la faute à maman ou que c'est qu'il y a un conflit entre le parent ou l'enfant, ce n'est pas du tout le propos, mais ça peut aussi intervenir malgré tout dans les difficultés alimentaires. Il peut y avoir aussi des facteurs qui sont liés alors à l'attachement. Donc, on a toutes les premières interactions mère-enfant. Alors, le but, ce n'est pas du tout de culpabiliser, hein, mais en tout cas, un enfant qui a passé ses premiers mois, par exemple, en couveuse, un enfant préma, au niveau de l'attachement, au niveau de tout ce qui se joue aussi dans la relation mère-enfant avec le pot à pot, etc., c'est des choses qu'il n'a pas vécues. Et voilà, il peut y avoir aussi des manques à ce niveau-là. Parce que l'alimentation, c'est aussi quelque chose qui se rapporte au plaisir. Et comme l'attachement et comme le pot à pot, enfin, il y a quelque chose de sensuel, de corporel aussi dedans. Et il peut y avoir eu des manques, on va dire, dans le parcours de vie de l'enfant qui font qu'il y a une difficulté au niveau de l'oralité alimentaire derrière. Il peut y avoir des facteurs anxieux aussi. Alors ça dépend aussi des gens, mais on sait que des fois, quand on n'est pas bien, qu'on a une boule dans la gorge ou qu'on a des soucis, ça nous coupe l'appétit. Donc ce qui est valable pour nous, c'est valable aussi pour les enfants. Donc ça peut aussi intervenir. Donc ça, c'est plus le côté un peu psychologique, développement psycho-affectif de l'enfant, etc. Donc quand vraiment il y a une problématique qui a un nœud à ce niveau-là, bah là, en l'occurrence, ce ne sera pas l'orthophoniste seul qui va pouvoir intervenir. Il y aura besoin de l'aide d'un psychologue pour pouvoir retravailler toutes ces choses-là. Après, au niveau comportemental, il peut aussi y avoir des choses qui sont liées au rythme repas-jeûne. C'est-à-dire que dans certaines familles, les placards sont en libre accès toute la journée. Et un enfant qui arrive le soir et qui mange rien au repas, mais qui a passé toute la journée à aller se servir dans le placard un petit bonbon, un petit biscuit, une petite boisson, etc., bah, c'est juste normal qu'il ait plus faim le soir finalement, quoi. Donc il y a vraiment des causes qui peuvent être comportementales liées à l'installation aussi. Donc l'installation, ça va être si on a l'habitude dans la famille de faire plateau télé, on est plus centré sur ce qui se passe à la télé que sur ce qu'on a dans l'assiette et du coup les données vont être faussées finalement. Donc ça c'est important aussi d'en tenir compte. Et de savoir comment ça se passe, est-ce qu'on mange à table, est-ce qu'on mange ensemble, est-ce que chacun mange quand il a envie, enfin voilà, toute cette organisation familiale-là. Alors, il y a aussi ce dont on avait parlé dans le premier podcast, qui est lié donc à la néophobie, c'est-à-dire le refus de la nouveauté, qui est normal, qui n'arrive pas à tous les enfants, mais qui arrive en général entre 2 et 7 ans. Donc ça fait partie du développement de l'enfant. Après, ça va être plutôt comment nous, on la gère. Est-ce que les choses vont s'ancrer ou est-ce qu'elles vont être dépassées? Mais ça peut faire partie des causes. Et puis, tout ce qui est sélectivité alimentaire, alors là, on retombe un peu aussi sur quelque chose qui est plus de l'ordre du psychologique. En tout cas, ça se travaillera plus avec un psychologue. Donc ça va être, par exemple, des enfants qui n'acceptent de manger que des aliments de couleur blanche. Et tout ce qui n'est pas blanc, eh ben, on n'en veut pas. Ou qui accepte que de manger des textures lisses. Alors, évidemment, on vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de problème au niveau sensoriel et que ce n'est pas parce que les morceaux sont mal gérés ou qu'il n'y ait pas de problème au niveau des mouvements moteurs. Mais voilà, ça peut être. Ou qui n'accepte que de manger du sucré. Mais tout ce qui est salé ou quoi est refusé. Enfin, voilà, vous avez compris un peu le principe, mais. Voilà, ça peut être. Alors, ça peut retomber dans les histoires de prise de pouvoir, d'affirmation. Il peut y avoir d'autres soucis derrière. En tout cas, c'est aussi des causes qui peuvent intervenir et qui peuvent venir mettre un peu la pagaille dans le développement des repas et dans le plaisir partagé qui est censé être lié.
On parlait de la néophobie tout à l'heure par rapport aux 2-7 ans. On a parlé aussi de différents facteurs sensoriels, médicaux, voilà. À quel âge on s'inquiète en tant que parent? À quel âge de l'enfant on écoute notre petite voix intérieure, on se dit, il y a un truc qui va pas, il faut que je consulte. Vers quel âge on peut se dire ça?
Alors, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une question d'âge. Alors, les critères des pédiatres, c'est souvent quand il y a une cassure dans la courbe de poids ou dans la courbe de la taille. Donc, Quand on suit la courbe du carnet de santé, si l'enfant est bas ou haut, peu importe, mais l'idée c'est que la courbe suive un cours qui est plus ou moins parallèle à la courbe qui est dessinée dans le carnet de santé. Et quand l'enfant grandit, grossit normalement et que tout à coup il y a une cassure, alors vers le haut ou vers le bas, mais qu'il y a une cassure, souvent c'est signe qu'il y a quelque chose de pas normal et que ça vaut le coup de s'en inquiéter. Et puis certains enfants continuent de grandir et de grossir normalement. Mais malgré tout, les repas deviennent anxiogènes. Enfin, en tant que parent, quand on a un doute, qu'on se dit, qu'on redoute les repas, qu'à chaque fois ça provoque de l'anxiété en se disant, oh là là, comment ça va encore se passer? J'ai peur qu'il n'ait pas assez mangé ou des choses comme ça vaut la peine de consulter. Au mieux, on sera rassuré. Et puis, s'il y a besoin, on peut agir, quoi. Que ce soit en guidance ou en prenant en charge, mais on peut agir.
Est-ce que tu peux nous dire, Aurélia, pour justement passer un peu en revue tous ces freins? Alors, il y a en premier le pédiatre, ok. Un bilan d'oralité chez l'orthophoniste, combien de temps ça dure, par exemple?
Alors, ça dépend pour le coup des âges. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien consulter pour un petit qui n'a pas encore 1 an, mais qui refuse la cuillère, qui refuse les morceaux, ou pour un enfant de 4 ans qui mange encore, j'ai eu le cas récemment, des petits pots lisses en 18 mois, et qui du coup à l'école ne peut pas aller à la cantine, ne peut pas, enfin, ne participe pas aux anniversaires, etc. Évidemment, si c'est un enfant de moins d'un an, il y aura moins de choses à explorer que si c'est un plus grand, donc le bilan va être plus court. En général, pour un bilan, il faut compter 1 heure et demie de temps avec les parents. Et puis, on essaye de se revoir en plusieurs fois parce qu'il y a aussi bien le côté anamnèse où on fait un peu l'histoire du patient, etc. Et puis, il y a les tests, entre guillemets, donc soit l'observation d'une prise alimentaire, soit ce qu'on
D'accord.
disait au niveau de l'exploration de la sensibilité. Donc ça peut prendre plus.
Ok. Eh bien, voilà pour ce deuxième podcast sur les freins qui peuvent empêcher des repas variés et sereins. Et puis le troisième podcast, on va aborder prochainement les outils. C'est ça qui est intéressant dans la finalité de cet entretien. Les outils pour débloquer ces situations, pour accompagner les enfants et leurs parents dans des repas sereins. Et...
Bonne journée Aurélia, à bientôt sur le blog Secret Nutritionniste.